en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, chers amis, je dois d'abord vous dire toute ma gratitude pour m'avoir invité à cette session. Je suis très honoré de parler devant des gens qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi et qui ont, comme observateur, comme acteur, comme témoin, été très impliqués dans la relation entre la France et l'Afrique. Donc merci de me faire cet honneur. Je dois dire aussi que pour une raison plus intime, je suis très, très ému d'être parmi vous parce que, étant métisse, étant binational, cette relation entre la France et l'Afrique est aussi une part d'intimité. C'est-à-dire que c'est en fait un peu un élément d'un dialogue intérieur. Mais je dois vous dire que, voyant évoluer cette relation, ce dialogue intérieur est une paix intérieure. Ce n'est pas un drame intérieur que d'essayer de comprendre, de saisir cette relation entre la France et l'Afrique, dont les dimensions humaines, culturelles, émotionnelles sont au moins aussi importantes que les dimensions politiques ou les dimensions économiques. Donc un double remerciement. Au fond, ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois on m'a qualifié d'afro-optimiste, parce que ça fait une quinzaine d'années que j'essaye d'attirer l'attention sur tout ce qui évolue en Afrique, et plutôt dans le bon sens, simplement en regardant les faits et les données. Mais en fait, je suis surtout franco-optimiste, c'est-à-dire que je pense que malgré le fait qu'il y a un sentiment aujourd'hui qu'un certain découplage s'installe entre la France et l'Afrique, que la France est soumise à de nombreuses concurrences, je crois qu'en fait, les complémentarités, les solidarités l'emportent de beaucoup et que l'avenir de la relation entre la France et l'Afrique est un avenir tout à fait prometteur. Simplement, il y a une condition préalable, probablement, qui est que ces deux ensembles se connaissent mieux et se comprennent mieux. Et je voudrais commencer par là. Je voudrais dire qu'il y a au fond trois thèmes qui me paraissent importants pour arriver à une meilleure compréhension entre les peuples et notamment sur le terrain de l'économie qui va être plutôt l'objet central de cette communication. Le premier, c'est que je crois que l'opinion publique française, parfois les décideurs économiques et politiques, n'ont pas tout à fait pris la mesure de la force, de la puissance, de la croissance économique de l'Afrique des dernières années. Il y a là une sorte de point aveugle, une sorte de déni d'une très forte croissance qui, au fond, est rentrée dans la conscience et dans l'esprit public en France tardivement. Je crois qu'il faut faire quelques efforts de compréhension et de connaissance à cet égard. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'Afrique vient de connaître un peu plus de 20 ans d'une croissance du PIB mesuré en volume à 5% l'an par an sur 20 ans. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la surchauffe économique que d'une croissance modeste, et c'est notamment supérieur à une croissance démographique de 2,5% à 3% sur le continent, en légère accélération d'ailleurs. Croissance démographique donc inférieure à la croissance économique sur ces 20 années, ce qui a permis des effets d'enrichissement, des effets de redistribution qui sont devenus significatifs. Je crois que Parfois, on a des doutes sur ces chiffres. L'appareil statistique de toute l'Afrique, et là, je parle vraiment de l'Afrique, au fond, du détroit de Gibraltar au détroit de Babel-Mandeb et du Cap Vert au Cap de Bonne-Espérance. Toute l'Afrique, l'appareil statistique est-il bien certain? Au fond, il y a de nombreuses contributions, d'ailleurs, des gens du corps de l'INSEE à cet appareil statistique dans le domaine francophone. Mais au fond, chaque fois qu'on a révisé les comptes, et c'est quelque chose qui est fait très sérieusement sous l'autorité du Fonds monétaire international, qui y aide et qui le contrôle, il a fallu réviser à la hausse très significativement les comptes nationaux. En 2014, on a révisé les comptes nationaux du Nigeria en faisant apparaître une progression de 89% de ce qu'étaient les chiffres connus alors du PIB du Nigeria. 89%. Le Ghana, ce fut 40%. Demain, le Togo et le Djibouti vont publier, et ce sera encore, en fait, une révision très significative à la hausse. Parce qu'on avait sous-pondéré toute une série de secteurs modernes dans la nomenclature des comptes nationaux. Vous voyez bien que quand on révise le PIB d'un pays comme le Nigeria, qui compte 180 millions d'habitants, et qu'on dit non, ce n'est pas 280 milliards de dollars, c'est 500 milliards de dollars, c'était le chiffre de 2014, depuis il y a eu quelques ajustements monétaires et un phénomène un peu récessif sur le fait du prix du pétrole, donc c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand on passe à 500 milliards, on est à taux de change courant. Quand on mesure le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat, qui permet plus facilement des comparaisons internationales, alors on est plutôt à 1500 milliards de dollars. À 1500 milliards de dollars, si on était en Europe, le Nigeria serait la cinquième économie de l'Union européenne. Si on était en Asie, le Nigeria serait la septième économie de l'Asie. En tout cas, au fond, pays qui compte. Une sorte d'addition des PIB, de la Belgique et des Pays-Bas, qui passent pour être des pays d'économie avancée et importants dans l'économie mondiale. Donc, il faut faire un tout petit peu attention quand on a des doutes sur la croissance, parce qu'il y a des pays qui ont été plus sensibles plus vite que les pays européens au fait qu'il y avait, à la fin des années 90, un décollage de la croissance africaine. Après des processus qui ont pu être douloureux d'ajustement structurel, après des révisions de prix relatifs d'un certain nombre de ressources naturelles, minérales ou agricoles, enfin, après de nombreux changements. Mais la Chine est incontestablement parmi les pays qui ont vu très tôt qu'il se passait quelque chose en Afrique, qui ont vu le décollage, qui ont vu la pente de croissance et qui ont imaginé la longue durée. Et donc je crois que c'est la première chose sur laquelle petit à petit il faut que l'esprit public change en France. Il est à penser que nous sommes dans quelque chose qui va ressembler aux 50 glorieuses, il est à penser que nous avons devant nous plusieurs décennies de croissance forte. Alors ça s'explique par le fait que nous partons d'assez bas, on ne peut pas partir de plus bas dans le monde, certes, mais enfin, une perspective de croissance en volume du PIB de l'ordre de celle que nous venons de connaître depuis 20 ans va probablement se prolonger pour des raisons toutes simples, c'est que au fond, tous les éléments de la fonction de production vont dans le même sens. C'est-à-dire que le capital est de plus en plus efficient en Afrique. Le capital change beaucoup de forme par le développement des marchés financiers et par l'activation de l'épargne. Longtemps, nous avons eu de l'épargne oisive dans le continent. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des phénomènes importants de bancarisation. Il y a donc une activation significative de l'épargne du continent. Et c'est significatif parce que l'Afrique épargne plus de 20% du PIB. À quoi vous devez ajouter l'épargne de l'extérieur. Et la première forme de l'épargne de l'extérieur, c'est l'épargne des migrants africains. Ça ajoute quelque chose comme 4 points du PIB de l'Afrique. À cela, vous ajoutez peu près 4% d'aide publique au développement et, selon les années, entre 4 et 6% d'investissements de l'extérieur, qui sont des investissements productifs ou qui sont des investissements de portefeuille, parce que, comme beaucoup de marchés émergents ou marchés dits de frontières, ce sont des marchés qui attirent sur les marchés financiers désormais des investissements de portefeuille. Et tout cela permet, tout cela autorise un niveau d'investissement qui, selon les années, mais de façon relativement homogène dans le continent, atteint 25 à 30% du PIB. C'est toujours paradoxal d'évoquer le fait que les pays pauvres sont les pays qui épargnent le plus. Bon, la Chine a précédé, bien sûr, l'Afrique dans ce mouvement, et la Chine a investi jusqu'à 40% du PIB, mais l'Afrique, entre 25 et 30, est très au-dessus des niveaux des pays de l'OCDE. On pourrait faire les mêmes raisonnements sur le travail. L'Afrique est un continent jeune. L'âge médian dans mon pays, le Bénin, est de 17 ans et demi. Cela veut dire une population d'âge actif, lorsqu'ils auront passé 17 ans et demi, qui rentreront dans les statistiques à 18 ans et jusqu'à 65 ans, sera au fond une offre de travail de plus en plus qualifiée par les effets de l'alphabétisation et de l'éducation, mais une offre de travail très significative. On estime que en 25 ans, l'Afrique, par l'effet de cette jeunesse et par l'effet de la croissance démographique, abritera 25% de la population d'âge actif du monde. Et ça, c'est le niveau que la Chine a atteint, le record qu'elle a détenu des années 90 jusqu'au moment où l'Afrique va la remplacer dans ce rôle. Et puis évidemment, il y a les facteurs de la connaissance, le capital, le travail et la connaissance. Encore une fois, on peut être frappé par le fait que l'alphabétisation est moins avancée que dans les pays d'Asie, que l'éducation a encore de nombreuses carences, mais il faut considérer probablement la vitesse de l'évolution. La vitesse de l'évolution est telle que, d'après la Banque mondiale, le pays qui aura gagné en alphabétisation le plus vite dans l'histoire, en termes de progrès de l'alphabétisation, et même s'il est parvenu à un niveau qui reste faible, s'appelle le Niger. Le Niger qui fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Donc l'alphabétisation est un phénomène évidemment relatif, mais qui, en termes de vitesse d'évolution, est significatif. Et cela, évidemment, a des conséquences importantes sur la capacité de qualification et sur la capacité de rendre le travail plus productif et le capital plus efficient. Le deuxième terrain sur lequel je crois la France se rendrait service à elle-même, c'est si elle était en matière de démographie. Dans une analyse peut-être un tout petit peu plus sereine sur la démographie africaine et à certains égards peut-être un petit peu plus juste. Alors évidemment, ce sont des phénomènes démographiques africains qui sont un petit peu biaisés par une certaine anxiété liée au phénomène migratoire en Europe, et à certains égards, et dans certains pays, par une certaine hystérisation de ces problèmes migratoires. On a vu une charge récente très très forte de l'Italie contre la France sur le thème « Vous facilitez, vous rendez nécessaire la migration de la misère africaine vers l'Europe. Vous, Français, qui tenez en servitude vos anciennes colonies et qui le faites par l'intermédiaire de la servitude monétaire que vous leur imposez avec le franc CFA. Bon, » c'est une polémique qui n'honore pas, je crois, le gouvernement italien, mais enfin qui venait du vice-premier ministre, qui a eu un grand écho sur les réseaux sociaux italiens, qui est très, très profondément perverse et fausse. Il y a effectivement des phénomènes migratoires dont certains ne sont pas très contrôlés. Ils sont en général liés à la guerre. Ça peut être les conflits frontaliers, ça peut être la guerre civile, ça peut être la Libye, ça peut être le Soudan, Darfour au Sud-Soudan, ça peut être l'Érythrée qui ne vient que récemment de conclure la paix avec l'Éthiopie. Enfin, c'est très souvent lié à des déplacements des populations liés à des conflits. Et c'est un cas particulier. Et également, il ne faut pas prendre l'Afrique pour le Maghreb. Il y a une situation particulière du Maghreb dans sa relation et avec la France et avec l'Espagne en termes de mouvements migratoires, mais qui ne s'explique pas par la démographie maghrébine, qui s'explique par des liens historiques très profonds, des mouvements de migration souhaités, voulus, désirés, imposés dans les années 30, puis à nouveau dans les années 50 et 60. Donc ce sont des phénomènes historiques, mais des phénomènes maghrébins. L'Afrique subsaharienne, elle, ne représente que 3% des flux estimés d'entrée en Europe. Pour une raison simple, c'est que l'Afrique subsaharienne migre vers l'Afrique. C'est 75% de la mobilité africaine. Là-dessus, je vous renvoie aux travaux de M. Héran, professeur au Collège de France sur ces questions démographiques et ancien responsable directeur général de l'INED, auquel, au fond, il a récemment donné plusieurs tribunes pour s'opposer à un certain nombre de clichés, un certain nombre de préjugés. Mais enfin, mettons de côté le caractère qui offusque un petit peu le raisonnement de la réflexion sur les migrations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démographie africaine n'est pas tiré par la fécondité africaine. Là encore, c'est toujours difficile de raisonner sur tout un continent, 1,2 milliard d'habitants, 50 États, probablement 500 langues très vivantes, une très grande diversité, puis de raisonner évidemment sur ce continent comme s'il était un. Alors il veut son unité, mais c'est évidemment des situations contrastées. Néanmoins, il y a quelque chose de commun, c'est que la fécondité est en baisse partout. Le Sahel n'est pas l'Afrique. Quand on parle des 6 enfants par femme, c'est, parlant du Sahel, le Sahel, la bande sahélienne du sud du Sahara, de Dakar à Djibouti, c'est 10% de la population de l'Afrique. Dans un pays comme le mien, le nord est sahélien, le sud est tropical, humide et côtier, ouvert au monde très largement depuis le XVIe siècle, n'a pas grand-chose à voir avec un certain nombre de logiques sociales, culturelles du nord du pays à 600 km. Et si nous avons 6 enfants par femme aujourd'hui au bord du fleuve Niger, au nord du pays, nous en avons 2,8 dans la capitale. Et si vous avez regardé les évolutions démographiques récentes du Maghreb, ce n'est pas seulement la Tunisie avec 1,8 enfants par femme qui a rejoint des taux européens de fécondité, c'est désormais le Maroc. Et à la surprise générale, c'est maintenant rapidement l'Algérie qui s'achemine vers 2 enfants par femme. La fécondité n'est pas le moteur de la croissance démographique. Et c'est très très important de découpler ces deux analyses, de la comprendre et d'éviter, au fond, des propos qui peuvent être, à la limite, des propos d'incompréhension, peut-être même un peu d'offense sur cette idée simple que tout irait mieux avec des efforts du planning familial. Ce n'est pas la fécondité le moteur. Le moteur, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Et cela, si vous voulez, ça ne s'arrête pas par les programmes de planning familial, puisque c'est un effet d'éducation, c'est un effet d'augmentation du revenu par tête, c'est un effet de santé, c'est un effet de la vaccination, notamment 80% des enfants sont aujourd'hui vaccinés en Afrique. C'est un chiffre généralement méconnu, mais évidemment fondamental. Et c'est l'effet de l'augmentation des rations nutritionnelles. L'Afrique affamée, l'Afrique des grandes 17 de 1977, il faut faire un tout petit peu attention à la mémoire, là, il ne faut pas rester en arrêt sur image. Il y a aujourd'hui 1,2 milliard d'Africains, il y en avait 250 millions à l'indépendance. Les rations nutritionnelles par habitant sont supérieures aujourd'hui dans ce contexte où la population a presque été multipliée par 6. En près de 60 ans. Par conséquent, il faut bien faire attention au fait que c'est l'allongement de l'espérance de vie. À l'indépendance, la plupart des pays, notamment les indépendances des années 60, avaient, au fond, une espérance de vie à la naissance de 40 ans. Aujourd'hui, vous rencontrez encore des pays, notamment en Afrique centrale, et qui ont des situations sanitaires, économiques plus complexes, en République du Congo, en République démocratique du Congo également, vous êtes encore à 55 ans d'espérance de vie à la naissance, contre une moyenne de l'Union européenne de 80 ans. On aura donc gagné 15 ans d'espérance de vie dans les pays qui ont avancé le moins, en 60 ans d'indépendance. Mais aujourd'hui, et même au Congo, vous gagnez, et c'est assez spectaculaire puisque ça n'a aucun précédent dans l'histoire, vous gagnez une année d'espérance de vie par année de vie. Messieurs les académiciens, nous avons commencé, vous m'avez donné la parole, monsieur le président, il y a 20 minutes. Si nous étions congolais, nous aurions gagné déjà 20 minutes d'espérance de vie. Il y a des pays qui, en 20 minutes, perdent un peu d'espérance de vie. C'est des pays qui vieillissent. Par exemple, c'est le cas de la Chine. Excusez-moi, je parle beaucoup de la Chine en creux, mais je m'en expliquerai dans un instant. Donc, faire attention, la dynamique démographique, elle est très forte. Elle est de l'ordre de 3%. Dans mon pays, elle est passée en deux décennies de 3,5 à 3,7%. Par l'effet de cette amélioration d'ensemble, qui est un indicateur synthétique de ce qui se passe en Afrique, on ne va pas maîtriser l'espérance de vie. On va continuer de la faire progresser et à la fin du siècle, on aura une espérance de vie qui aura rejoint celle des pays d'Asie et qui sera supérieure à certains pays en vieillissement parmi les pays avancés. Donc ça, c'est vraiment très important parce que se tromper là-dessus ou croire qu'il nous faut attendre une ruée sur l'Europe, ça peut devenir un dissentiment et un élément de ressentiment très important dans la relation entre l'Afrique et la France. Surtout si c'est accompagné et relayé d'une réduction lente des discriminations contre les diasporas africaines en Europe. Si ça devait devenir le cas, ce serait un facteur auquel je crois la France échappe assez largement, mais en fait, ça pourrait devenir un facteur d'incompréhension et au point de changer l'état des relations de l'Afrique avec les pays émergents qui pourraient, au fond, trouver là un avantage, c'est celui de ne pas stigmatiser l'évolution de la population. Donner des leçons sur l'évolution démographique, c'est quand même toujours quelque chose que les citoyens d'un continent doivent hésiter à faire trop simplement à l'égard des citoyens d'un autre continent, parce qu'à l'évidence, ce sont des sujets sensibles. Et puis, au fond même, je vous inviterai volontiers, mesdames et messieurs les académiciens, à déplacer légèrement le projecteur, parce que je me suis demandé pourquoi, dans la presse chinoise, on lit aussi peu de choses hostiles au mouvement migratoire. Il y a de plus en plus d'Africains à Canton, c'est célèbre, et de façon générale vers la Chine. Mais enfin, le thème l'Afrique va se ruer vers l'Europe n'a pas d'équivalent d'une ruée vers l'Asie. Mais il faut que vous voyez bien que les flux sino-africains de migration sont inversés. En 15 ans, il y a 1 million de nationaux chinois qui se sont installés en résidant en Afrique. Ils sont très visibles en Afrique de l'Est, ils commencent à l'être beaucoup en Afrique centrale et un peu en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Il y a aujourd'hui 1,5 million de nationaux chinois résidant en Afrique. Il y a 250 000 Français, chiffre stable, qui comprend les binationaux. Et ce chiffre, au fond, moi, j'ai été attiré à le chercher, à essayer de le vérifier, par nos amis japonais qui s'affolent du fait qu'il y a 3,500 nationaux du Japon résidant en Afrique. Est-ce que ça aura des conséquences demain sur la relation entre la France et l'Afrique, entre le Japon et l'Afrique, entre la Chine et l'Afrique? Je vous laisse y réfléchir, mais ce sont des flux inversés. Et c'est un chiffre et c'est une donnée que, au fond, peu de gens considèrent en Europe. Voilà, donc ça, c'est des éléments fondamentaux de la progression des connaissances et de la compréhension, je crois, nécessaire. Dernière chose, je crois qu'il est important en France de bien entrer dans la dynamique de développement des pays africains. Parce que notre croissance, elle ne résout pas tout. Notre croissance, elle est profondément anomique. Et notre croissance, elle nous demande encore d'aller chercher beaucoup de concours, beaucoup d'aide publique, beaucoup d'investissements de l'extérieur, beaucoup d'épargne supplémentaire de l'extérieur, parce que nous avons encore énormément de besoins d'infrastructures, pas seulement d'infrastructures de transport, mais aussi d'infrastructures sociales, éducatives, sanitaires. Nous avons besoin de produire beaucoup plus de biens publics et nous avons besoin de produire beaucoup plus d'investissement productif. Pourquoi ? Parce que notre croissance a deux facteurs d'anomie très graves. Le premier, c'est que nous n'arrivons pas à faire entrer sur le marché du travail les jeunes qualifiés. Et pour quiconque est passé comme moi du secteur privé, de la quiétude du secteur privé, à l'inquiétude d'être responsable politique, c'est que les conséquences politiques de ne pas faire entrer une jeunesse mieux alphabétisée, mieux formée, tout à fait connectée sur le marché du travail, avec cette perversité particulière qui est que le chômage est d'autant plus préoccupant que vous êtes plus qualifié. Aujourd'hui, nous sommes l'exception mondiale. Plus on est formé, moins on a accès à l'emploi. Vous imaginez ce que cela veut dire en termes politiques comme risque. C'est un risque de radicalisation quand on utilise la religion comme substitut, et c'est évidemment quelque chose que l'on observe d'un bout à l'autre de l'Afrique. C'est donc un aliment de terrorisme. C'est l'aliment de tous les trafics. Quand vous n'avez pas de place sur le marché du travail, vous pouvez vous trouver une place dans les circuits du trafic. Vous avez le choix entre le trafic des êtres humains, très très impressionnant au Sahara, qui a été spectaculairement rendu visible en Libye, le trafic des armes, mais évidemment le trafic de la drogue, qui prend avec comme marché final la demande européenne une place importante et qui est un aliment important de la clairement du financement du terrorisme notamment djihadiste, notamment transsaharien. Ne pas pouvoir faire rentrer, parce qu'on n'a pas une offre d'emploi qualifié, parce qu'on a un secteur formel trop faible, trop petit, et puis parce qu'il faut remplacer des générations creuses par des générations pleines, ne pas pouvoir faire entrer suffisamment de jeunes qualifiés sur le marché du travail, c'est le caractère le plus anomique de notre croissance. Et c'est politiquement la chose à laquelle on est confronté quand on est un responsable, qui est la plus urgente. Il y a des solutions à ça, mais ces solutions vont demander de mobiliser encore plus de capital. Au fond, il faut avoir une composante d'emploi dans chaque unité de croissance du PIB qui soit plus importante. Ce coefficient d'emploi est aujourd'hui très faible. Alors qu'on crée en Europe des emplois nets suffisamment pour faire reculer le chômage à partir de 1,5% de croissance, jusqu'à 5 ou 6% en Afrique, on n'y parvient pas. Pourquoi ? Parce que, alors, chaque peuple pense que c'est la faute de ses dirigeants. Donc la première interpellation des électeurs vers quelqu'un qui se présente à l'élection, et les élections, comme vous savez, se développent assez vite en Afrique, le fait que leurs résultats soient un peu aléatoires par rapport au vote qui a été exprimé, et que ce n'est pas le caractère solennel et précis de votre compagnie auquel je viens d'assister, c'est évident. Néanmoins, le fait qu'il y ait des élections veut dire qu'on sollicite l'opinion publique et qu'elle s'exprime. Et cette opinion publique, elle ne peut pas accepter cette situation de l'entrée du travail inhibé. Et on a besoin d'une composante, d'un coefficient d'emploi beaucoup plus élevé qu'on ne trouve que dans l'industrie manufacturière et qu'on ne trouve que dans les services modernes. En effet, on nous a livré un continent sans infrastructures. Mais les infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures de transport ou d'énergie, demandent beaucoup de capital et ne créent qu'indirectement par les externalités du travail, mais pas directement. Et l'agriculture, ce qui est contre-intuitif, mais l'agriculture est le secteur d'activité qui est le plus intensif en capital. Vous voyez, pour faire du lait au Bénin, pour faire un litre de lait à 200 francs CFA, il faut immobiliser 400 francs d'investissement. Pour transformer ce litre de lait en un kilo de yogourt ou de lait lyophilisé, hypoallergénique ou de fromage, enfin, tout ce qu'on peut faire avec du lait, et on peut faire beaucoup de choses, on peut également faire des produits pour l'enrichissement de l'acier, etc. Enfin, quand on passe à la transformation à valeur ajoutée de ce lait, il faut, pour faire 200 francs CFA de chiffre d'affaires, immobiliser 100. C'est un coefficient de capital qui est 4 fois supérieur dans l'amont agricole à ce qu'il est en aval de la chaîne, simplement parce que les produits qui ont au fond obtenu ce contenu de valeur ajoutée ont une valeur unitaire bien plus élevée. Donc, avant d'être l'échec de tous les gouvernements dans tous nos pays, vraiment du Maghreb à l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est une loi d'airain de l'état de notre développement. Et donc on peut appeler la transformation de matières premières brutes, etc., mais enfin, il va falloir financer cette transformation assez profonde des filières. Et la deuxième pathologie anomique de notre croissance, c'est qu'elle ne réduit pas l'extrême pauvreté. Ou pour être plus précis, elle réduit la pauvreté, mais ne réduit pas le nombre des pauvres. Et là, vous avez un paradoxe absolument central qui a lui aussi des conséquences politiques absolument considérables. Pourquoi ? C'est très simple. Quand vous croisez avec la croissance démographique, à l'indépendance, l'Afrique était encore un continent très vide. 250 millions d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés. Une des raisons pour lesquelles, dans le point précédent, j'insistais sur le fait que les angoisses migratoires, la ruée sur l'Europe, devaient être modérées dans l'esprit public, c'est que l'Afrique reste un continent vide. À 1,2 milliard d'habitants, nous avons une densité de 40. Une densité de 40, c'est le tiers de la densité de l'Union européenne. Quand nous serons 2 milliards d'habitants, vous voyez bien que nous ne serons encore qu'autour de 75. Quand nous serons 4 milliards d'habitants, nous ne serons toujours pas à la densité européenne et nous risquons d'être 4 milliards d'habitants, risqués au sens où il y a une probabilité que nous serions 4 milliards d'habitants. Quand mon petit-fils qui m'a accompagné jusqu'au seuil de cette salle pour me soutenir et qui est né il y a un an, quand il n'aura que 80 ans, et que nous serons, ils seront, je ne suis pas sûr d'être témoin, 4 milliards, nous serons encore à une densité à peu près égale cette fois-ci à celle de l'Union européenne. Je referme la parenthèse sur la densité. Simplement, quand 90% des Africains à la fin des années 50 vivent sous le seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale, ils sont 225 millions. Quand aujourd'hui, grâce à la baisse drastique de la pauvreté, du taux de pauvreté, du taux statistique de pauvreté, ils ne sont plus que 40%, ce qui est encore très élevé, à vivre sous le seuil de pauvreté, ils sont 40% d'un milliard d'eux. Ils sont 480 millions d'habitants. Nous avons plus que doublé le nombre des pauvres tout en faisant s'effondrer les statistiques de la pauvreté. Et là, c'est l'homme politique qui parle, mais tant que j'étais dans la quiétude d'être ou un ancien économiste ou un banquier, je trouvais que la statistique de la pauvreté devenait de plus en plus satisfaisante. Comme Premier ministre candidat à une élection présidentielle, je me suis aperçu qu'en fait, on n'est pas élu par une statistique, mais par le nombre des gens qui sont dans les bidonvilles, quartiers périurbains devenus très dangereux dans beaucoup d'agglomérations, ou par les pauvres qui sont beaucoup encore dans le monde rural africain. Daniel Cohen a une formule qui est de dire « L'homme le plus pauvre du monde est une paysanne africaine ». C'est là que se réfugie la pauvreté et dans les bidonvilles qui accueillent les déracinés de l'exode rural. Et donc, soyons clairs, nous avons ces deux pathologies extraordinaires de notre croissance. Nous fabriquons des classes moyennes, nous fabriquons même anecdotiquement quelques milliardaires, mais nous ne réduisons pas le nombre des pauvres. Et l'Asie est pour l'instant le seul continent qui ait complètement réussi à faire baisser les deux indicateurs, c'est-à-dire en valeur absolue le nombre des pauvres, et en taux celui au fond de la pauvreté exprimée par rapport à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, sur ces sujets, ne pas dénier la croissance et bien voir les inflexions majeures. Juste une anecdote très brève. J'ai accompagné François Hollande en 2014 au Nigeria et il était entouré d'hommes d'affaires français qui lui ont dit « Monsieur le Président, nous avons un grand succès de commerce extérieur. Nous avons augmenté les exportations de la France vers le Nigeria de 13% en 2013. » Excusez-moi, Monsieur le Président, je crains que votre fils ait été là. Et j'ai gâché légèrement ce moment en disant « Oui, mais en 2013, les exportations de l'ensemble du monde vers le Nigeria, donc les importations du Nigeria, ont augmenté de 23%. » Et dans la relation entre la France et l'Afrique, il faut regarder les indicateurs de façon un tout petit peu plus sophistiquée. On peut ne jamais régresser en matière de commerce extérieur. Les exportations de la France se portent bien. La France est d'ailleurs en excédent structurel uniquement sur cette zone du monde, Afrique et Moyen-Orient. Mais enfin, on peut progresser tous les ans et perdre de la part de marché tous les ans. C'est comme cela que la France est passée en 20 ans de 15% des importations d'Afrique à 5%. Et pour ça, il suffit qu'il y ait des pays, ils s'appellent la Chine, ils s'appellent l'Inde, ils s'appellent la Corée du Sud, ils s'appellent la Turquie, mais, et ça devrait préoccuper plus la France, ils s'appellent l'Espagne, premier partenaire désormais du Maroc dans l'échange, ils s'appellent l'Italie, premier partenaire de l'échange désormais en Tunisie, et on sent bien qu'il va s'appeler, au fond, ce concurrent européen de demain, il va s'appeler l'Allemagne, qui est désormais redevenu très actif dans ses ambitions africaines. Et donc, c'est une différence entre la mort lente et la mort subite, mais il y a une sorte de déclin lent et assez heureux, puisqu'on ne cesse de croître. Le problème, c'est qu'il ne faut pas croître beaucoup moins que les autres. Là, il y a un vrai problème. Et alors, pourquoi être franco-optimiste? Peut-être deux points, Monsieur le Président. Pourquoi être quand même franco-optimiste? Parce que d'abord, je pense que cette concurrence que je viens d'évoquer a beaucoup ressaisi les décideurs français. Je pense d'ailleurs que les 10 voyages en Afrique du président de la République en 22 mois, ce qui est un record, est assez réussi et assez nouveau dans leur tonalité. Et la preuve vient d'en être administrée en Afrique de l'Est, mais elle l'avait déjà été assez spectaculairement devant les jeunes à Ouagadougou. Ce qu'Emmanuel Macron a fait à Ouagadougou devant les jeunes étudiants, ce qu'il a fait à Nairobi devant les jeunes étudiants, ce qu'il a fait au Nigeria devant des milliers d'entrepreneurs, ce qu'il a fait dans une boîte de nuit du fils de Fela, qui est la plus célèbre boîte de nuit d'Afrique, à Lagos. Personne n'avait jamais fait. Ça n'existe pas. Un chef d'État qui va devant ces jeunes concitoyens et qui, sans aucune censure, répond à toutes leurs questions très, très, très directement. Il y a donc une prise de conscience tout à fait au sommet de l'État et quelque chose de complètement nouveau que ressent bien l'Afrique. Donc la France est regardée un peu à l'image de son président. Au fond, les présidents français ont été populaires depuis longtemps en Afrique, mais le président actuel a un peu cette image, prince de la jeunesse, au fond, président de la Startup Nation, qui parle à une Afrique qui est très jeune et qui est, en matière de création de start-up, extraordinairement créative. Donc, je crois qu'il y a eu une prise de conscience que l'esprit public a changé. Je crois qu'il a changé également chez les décideurs économiques à raison de cette concurrence si variée. Parce qu'il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce que les Chinois ou les Coréens, vous allez sur un marché, vous ne pourrez pas échapper à Samsung si vous voulez équiper votre foyer, vous ne pourrez pas échapper à Hyundai si vous voulez équiper un chantier, vous ne pourrez pas, etc. Et je pense que ça, ça a eu, comme souvent la concurrence, un effet très, très positif. Mais plus profondément, en dehors de ce changement dans l'esprit public, je crois qu'il y a une adaptation parfaite de l'offre de technologie et de services de la France aux besoins de l'Afrique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons des économies qui doivent répondre aux mêmes défis de la mondialisation. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui pensent que la dichotomie nord-sud n'a plus aucun intérêt, qu'avec des différences de degrés, il n'y a plus une césure aussi forte entre ce qui était le nord et ce qui serait le sud. Prenez la révolution agricole africaine en cours. Elle a besoin de green tech, elle a besoin de technologie. La France a des forces exceptionnelles, qu'il s'agisse du domaine semencier, qu'il s'agisse du domaine de l'irrigation, qu'il s'agisse du pompage solaire, qu'il s'agisse d'énormément d'élaboration des industries agroalimentaires. Et donc, on peut penser que la France est adaptée à répondre aux nouvelles demandes de l'Afrique, autant, par exemple, pour ce domaine de l'agriculture. L'agriculture, c'est 25% du PIB du continent et 50% de la population active. Un besoin de modernisation qui va se traduire par des gains de productivité, donc des gains de revenus, de pouvoir d'achat très importants. Mais on peut prendre pour un cas précédent et une bonne métaphore ce qu'a été la révolution des télécommunications. Il y a une révolution du smartphone qui est absolument exceptionnelle. Il y a eu des gens pour penser, dans un pays comme le mien, il y avait 50 000 lignes fixes de téléphone, il y a 9 millions d'abonnés. Enfin, ils ne sont pas forcément abonnés parce qu'ils sont en prépaiement, mais enfin 9 millions d'utilisateurs du téléphone portable, dont à peu près 4 millions d'utilisateurs de smartphones. 50 000 lignes fixes, c'était il y a 20 ans. Moi, j'ai demandé le téléphone il y a 20 ans, et le fait d'être Premier ministre m'a guère avantagé, et donc je ne l'ai toujours pas. Mais en fait, je peux communiquer quand même grâce au smartphone. Mais les usages sociaux du smartphone vont à une vitesse absolument considérable. Aujourd'hui, j'étais dimanche dans la Beauce, on me disait « Ah, mais les agriculteurs beaucerons suivent sur leur téléphone portable toutes les évolutions du marché des céréales depuis leur tracteur. » Oui, mais au Mali aussi. Au Kenya aussi. Avec d'ailleurs plus d'intérêt sur la formation des prix localement à proximité. Parce que ça n'est pas pareil, notamment là où il y a des difficultés de transport, de communication, d'aller à 10 km ou à 20 km vendre ses produits vivriers, et si on est informé des différences de prix, de jouer de ces différences de prix, ce qui d'ailleurs a un effet d'homogénéisation des prix, qui a un effet très positif sur le pouvoir d'achat, crée une unification des territoires. L'ambassadeur du Kenya à Tokyo me disait « Ah, je passe la moitié de la journée de m'occuper de mon troupeau, si vous voulez ». Je lui fais préciser. Oui, enfin, par mon smartphone, je vérifie au jour le jour où les bêtes pâturent, quels sont les rendements laitiers, et si on peut réparer les pompes électriques qui sont connectées en les faisant réparer par Schneider Electric à distance. Donc, si vous voulez, ça prend du temps aux ambassadeurs. Je pars sous votre contrôle, vous qui avez vécu au Japon récemment trop longtemps. Mais si vous voulez, c'est contre-intuitif de suivre son troupeau de la chancellerie du Kenya à Tokyo. Mais c'est pourtant une réalité qui a l'air d'être de la science-fiction, qui a l'air d'être anecdotique, mais qui se répand plus en Afrique de l'Est jusqu'à l'ouest, mais l'ouest suit, plus en Afrique du Sud qu'au nord, mais le Maghreb et le Mashrek suivent. C'est quelque chose qui signifie, et qui est une très bonne métaphore de ce qui va arriver dans un peu tous les domaines de la technologie. Et là encore, franchement, en matière de télécom, même si Alcatel a régressé, même si c'est surtout la filiale chinoise d'Alcatel qui exporte, Shanghai Bell, même si ce n'est plus tout à fait sous contrôle français, enfin, il y a quand même des atouts technologiques qui répondent exactement. Nous avons les mêmes problèmes, sauf que l'Afrique va plus vite en matière d'usages sociaux des technologies. C'est contre-intuitif et pourtant il existe une théorie économique. Monsieur le Président, vous avez bien voulu dire que, ayant suivi vos cours sans que vous m'aperceviez dans l'amphithéâtre, j'ai donc fait un tout petit peu d'histoire économique et j'étais sensible à la théorie de Gershon-Kron sur les avantages de l'arriération, par opposition aux théories classiques des étapes classiques de la croissance. Au fond, on saute par-dessus les générations technologiques et on s'installe à partir de là sur le front du progrès. Et donc, il faut faire attention au fait qu'aujourd'hui, à l'instar de la Chine, l'Afrique est plus avancée en paiements digitaux et donc très vite maintenant en banque numérique, en microcrédit numérique, que l'Europe. Si vous regardez les performances d'Orange Money, donc, et que vous regardez la banque par l'effet, enfin, de la très bonne réponse des banques installées en matière de banque numérique, Orange Money a, en 2018, réduit son produit net bancaire. En revanche, Orange Money a 12 millions de clients en Afrique, là où Orange est installé comme opérateur de télécommunications. Et c'est pareil pour Vodafone et son célèbre Safaricom au Kenya, et c'est pareil pour MTN, le grand opérateur sud-africain, et c'est pareil pour Airtel. Donc vous avez de très grands opérateurs qui sont en train de changer les usages sociaux. Et aujourd'hui, l'Afrique de l'Est est entrée, et l'Afrique de l'Ouest suit à 2-3 ans près, dans une situation où la monnaie manuelle régresse extrêmement vite. En Chine, aujourd'hui, on prend pour un exotisme français d'essayer de payer avec de la monnaie manuelle. Ça paraît une espèce comme ça d'élégance d'ancienne mode. Bon. Mais quand ça deviendra le fait du Kenya et de la Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que ça trouble les Français parce qu'ils n'y auraient pas pris part. Et donc, le vrai enjeu, je crois, de la relation entre la France et l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, pour encore faire que la France, en avance en matière de sciences de la vie, en avance en matière d'agronomie tropicale et de façon générale de sciences de la terre, en avance à certains égards sur beaucoup de pays sur les data sciences, pour que la France participe complètement, parce que c'est les points sur lesquels et la Chine, mais surtout je dirais l'Inde et la Corée du Sud, sont aujourd'hui en train d'assister le plus. Et j'en terminerai, Monsieur le Président, avec une deuxième évolution qui me rend optimiste, parce que je crois que tout ce qu'on vient de dire sur les usages sociaux de la technologie et l'offre technologique française, je crois que c'est quelque chose où la France est très très loin d'être éliminée. Je pense qu'elle a, au contraire, toutes les chances d'y participer. Et je pense là aussi que le pouvoir politique en a pris toute la mesure. Et au moins les sociétés du CAC 40 et un certain nombre de PME qui connaissent bien l'Afrique. Mais je cite les sociétés du CAC 40 parce qu'il y a une métamorphose profonde entre ma jeunesse et celle de mes enfants. Lorsque j'étais jeune, les entreprises françaises en Afrique étaient des entreprises spécialisées sur l'Afrique. Qui se souvient encore d'Optorg ? Qui se souvient du Niger français ? Qui se souvient des établissements Périssac ? Aujourd'hui, les entreprises françaises s'appellent Orange, Vivendi, Danone, etc. Je viens tout de suite à... Il reste Bolloré, mais Bolloré logistique est mondial. La part de l'Afrique est faible. Et la CFAO s'appelle encore Compagnie française de l'Afrique occidentale, mais elle aussi, elle a un déploiement, une diversité de métiers et de géographies de plus en plus grandes. Et elle n'est donc pas du tout qu'en Afrique occidentale, qui est une des parties les plus faibles de son chiffre d'affaires. Et comme vous savez, le F également pose un petit problème, puisqu'elle est désormais japonaise et qu'elle appartient à Toyota Tsusho. Donc faire attention à un certain nombre de dépouilles ou de petites illusions créées par la façon dont les entreprises disent leur nom. On peut être la compagnie française de l'Afrique occidentale et être la société de trading mondialisée, et de biens de consommation mondialisée d'un groupe japonais. Donc faisons un tout petit peu attention. Je crois que les entreprises jusqu'à 40 sont profondément nouvelles. L'Afrique n'est qu'une partie de leur expérience mondiale, par conséquent, elles n'ont pas de passé colonial, ou très faiblement. Elles ont beaucoup africanisé leur cadre. Et au fond, elles savent très bien que l'exclusif colonial, si vous cherchiez bien dans l'outre-mer français, vous trouveriez quelque chose qui ressemble à un peu de postérité de l'exclusif colonial, mais plus en Afrique, où on est dans un univers concurrentiel avec des acteurs différents. Mon tout dernier point, Monsieur le Président, c'est donc à côté de ces éléments-là que je crois tout à fait capable de nourrir le renouveau de la relation entre Afrique et France, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans ma famille, c'est que je crois que la culture est un facteur de production très important et que la culture a à certains égards un primat sur l'économie. Et là, j'ai le sentiment de parler à beaucoup d'entre vous qui en avaient évidemment une meilleure expérience que moi, mais d'abord, la culture, ça peut être populaire. Il se trouve que nous avons créé une fondation familiale que ma fille ici présente a présentée à l'Académie des Beaux-Arts il y a quelques mois. Et que nous avons, ce que j'ai essayé d'expliquer au président de la République, plus de public pour les expositions dans nos deux musées et pour entrer dans nos bibliothèques qu'il y a de public au stade de football. Néanmoins, les politiciens en général préfèrent le sport au musée, mais c'est quelque chose qui va changer assez rapidement. Et alors, là encore, je crois que l'esprit public change et que l'action du président de la République est assez originale. Je ne sais pas si c'est très aperçu en France, s'il a pris des initiatives, je parlais tout à l'heure du dialogue avec la jeunesse. Mais il faut y ajouter la thématique très controversée. Et là encore, je sais que je parle devant de très grands spécialistes de la restitution des objets d'art. Uniquement ceux dont il est avéré qu'ils ont été pillés dans des expéditions militaires coloniales, des guerres coloniales. Également, il a créé, il m'a demandé d'assurer, au fond, un peu la présidence du comité consultatif de cela, une saison africaine, Africa 2020, qui doit présenter en France pour changer les regards à la fois des créations culturelles, artistique, mais aussi scientifique, au fond, tout ce qui exprime et permet d'exhiber la créativité africaine. On va voir ce que sera le succès public, mais c'est à partir d'une idée de coproduction. Et je voudrais rappeler que la France à l'Institut de France, comme elle a l'Institut français, comme elle a ses académies, mais nous avons, en matière littéraire, nous avons en matière de réflexion politique, nous avons en matière de réflexion philosophique, quelques-uns des auteurs, quelques-uns des lecteurs, et beaucoup des locuteurs. C'est-à-dire que l'avenir de la langue française, il va être très coproduit entre tous les pays francophones et la France. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui un atout considérable. Alors, on peut se moquer en disant la France veut mettre l'accent sur la créativité, sur la poésie, monsieur le gouverneur, sur la... la littérature, les élégances et l'art, pendant que la Chine construit des routes et des ports. Et pendant que les Américains construisent les GAFA et que nous ne sommes pas à armes égales sur ce terrain, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Les initiatives récentes publiques françaises, elles ont un avantage absolument considérable qui est qu'elles rendent respect aux cultures africaines à bien des égards, qu'elles changent la mémoire, qu'elles changent l'accès des Africains à leur propre histoire. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas dans ma génération, c'est la génération de mes enfants qu'il y a cette revendication. très très forte. Rendez-moi ma fierté, le respect, ma mémoire, mon histoire. Et faire attention, parce que ce qui menacerait le plus la France, c'est que le sentiment de tous les décideurs et des populations devienne un ressentiment. Car une bonne partie de la progression des émergents, du Brésil, comme de l'Inde, comme de la Chine en Afrique, une bonne partie de leur prestige, du fait qu'on accepte jusqu'à leurs abus, c'est quelque chose qui tient à la solidarité des gens qui ont été dominés. Et donc il faut refonder un sentiment qui ne soit pas un sentiment qui approfondisse les hostilités possibles, fondées sur tout d'un coup la résurgence d'un passé qui ne passe pas. Il faut dire ce qu'a été l'esclavage. François Hollande a souhaité qu'il y ait une fondation de la mémoire de l'esclavage. Il faut dire ce qu'ont été les guerres coloniales. C'est très important de le dire si on veut que cela s'assume et passe. Et si on veut recréer cet avantage moral, cet avantage éthique, cet avantage émotionnel qui fait que un Africain comme moi trouve tout naturel de parler dans votre académie, devant ses professeurs de l'école normale. Un jour, je préside une petite société vitivinicole à Bordeaux, le président de l'Union des viticulteurs de Bordeaux m'a dit, après un discours que je faisais à la suite d'Alain Juppé, « Ça, c'est formidable comme vous parlez français convenablement. » J'ai dit que s'il envoyait plutôt ses enfants en Hippocagne, au fond, il verrait, la recette est assez simple, quoi. Il suffit de faire une classe de rhétorique ou de rhétorique supérieure, et puis, au fond, on y arrive. Même quand vos ancêtres sont nés à Savalou, dans le département des collines de la République du Bénin, mais si vous voulez, si on veut recréer des conditions par lesquelles on oublie le ressentiment et on se félicite de parler avec les mêmes codes, la même division du monde, les mêmes références philosophiques. Aujourd'hui, dans une ancienne colonie française, on a des petits problèmes démocratiques, et bien on prend l'esprit des lois, et puis on cite du Montesquieu. En fait, on ne prend pas l'esprit des lois, on le connaît par cœur. Monsieur le vice-président, on dit, mais c'est la jurisprudence de la semaine dernière du Conseil d'État. C'est quand même très important que d'avoir cette plateforme extraordinaire de culture partagée et coproduite. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le président, mesdames, messieurs les académiciens. Si on se connaît mieux, si on ne dénie pas la croissance de l'autre, si on prend la mesure de la vitesse, si on n'attend pas 5 ou 10 ans pour perdre ses avantages comparatifs, ce serait quand même du gâchis. Si on regarde les problèmes de population avec modération, modestie, voire empathie, si on profite de cette demande extraordinaire de technologies, qui sont des technologies dont la France dispose, qu'elle peut mettre à disposition avec tous les réseaux qu'il faut, si on aide à régler des problèmes d'une croissance déséquilibrée qui n'est pas encore du tout du développement, je pense qu'on a un avenir tout à fait intéressant. Enfin, c'est maintenant. C'est maintenant. Dans 5 ans, on n'aura pas le luxe en se retournant, et ni même le droit en se retournant, de dire on a gâché les chances de la relation entre la France et l'Afrique. Et ça aurait d'autres conséquences, et politiques, et diplomatiques, qui seraient regrettables. Michel Léris a présenté son premier manuscrit, Dakar, Djibouti, 1931-1933, à un jeune lecteur de Gallimard, qui était André Malraux. André Malraux lui a dit, c'est un titre très terne, donc vous allez revenir avec un titre convenable. Et alors, il est revenu avec le titre « L'Afrique fantôme ». C'est un beau titre pour un chef-d'œuvre. Et qui a changé à bien des égards l'orientation de l'ethnographie en France. Dans la préface que 50 ans plus tard, il lui a consacrée, en 1981, Michel Léris dit qu'il avait découvert dans ce voyage un peu de l'oppression coloniale, mais surtout beaucoup de la résistance silencieuse, sourdine, et la rébellion de partout, de Dakar à Djibouti, à cette oppression. Et il dit, ça a changé ma vision de l'ethnographie. Elle ne peut pas être une dégustation artiste. Elle ne peut pas être cette ethnographie nouvelle française de l'après-guerre. Ce livre avait été pilonné au moment de l'État français. Elle ne peut pas être un moment détaché d'examen de l'autre. Il est essentiel que cette ethnographie joue un rôle dans les évolutions permanentes, les changements permanents de ces pays et de ces peuples, et qu'elle devienne une fraternité agissante. Et c'est sur ces deux mots, Monsieur le Président, que je voudrais vous remercier de votre attention.